jusqu'à 13h30, les midis de culture. Nicolas Herbeau, Géraldine Mosna-Savoie.
Notre rencontre quotidienne, c'est une conversation à trois voix avec notre invité ce midi. Il est écrivain, un écrivain né à Haïti, québécois et membre de l'Académie française. Et c'est parce qu'il est justement écrivain qu'il vit au Québec depuis les années 70 et que le Québec l'habite quand il est ailleurs, comme il aime à le dire. C'est pour toutes ces raisons que pour la seconde fois, il fait partie de la délégation d'auteurs et d'autrices canadiens et canadiennes qui viennent à Paris pour célébrer le livre lors de ce Festival du Livre de Paris. Mais qui est vraiment notre invité? Souvent, il se présente comme un homme de l'Amérique. Mais c'est aussi un grand lecteur, un amoureux des livres, bien sûr. Il revisite d'ailleurs ses propres romans pour en faire un seul et unique livre. On va en parler avec lui. Il appelle ça son autobiographie américaine.
Bonjour, Daniela Ferrière.
Bonjour.
Bienvenue dans les Midis de Culture.
Bien sûr, mais c'est étrange l'idée de la rencontre préparée, pensée, qui a une heure à elle.
Oui,
c'est vrai.
40 minutes précisément.
Non, où est la surprise?
C'est pas une rencontre hasardeuse, mais on va essayer d'en faire une belle rencontre tout de même, Daniela Ferrière. Vous êtes là puisque effectivement, dans ce grand palais éphémère jusqu'à dimanche, on célèbre le livre et le Québec, qui est donc l'invité majeur et le grand invité de cette troisième édition de ce qu'on appelle aujourd'hui le Festival du Livre. Et vous étiez déjà en 1999, je commence par vous ramener un peu en arrière, dans cette délégation québécoise qui venait fêter, célébrer le livre et la littérature québécoise en 1999. Qu'est-ce qui a changé depuis autour de vous? Qui sont les gens qui sont aujourd'hui, qui font partie de cette délégation? Comment vous pourriez comparer ces deux délégations à 25 ans d'écart?
Bon, d'abord les gens, comme vous avez dit, je pense qu'on est trois à être revenus. Et le temps qui magnifie, qui illumine, ou bien encore qui avale, qui bouffe les êtres, les choses, les idées, les idéologies. Et je pense que Valérie est allée jusqu'à dire les civilisations même. 25 ans, c'est beaucoup. Ça dépend de l'âge qu'on avait au moment de ces premiers 25 ans. Et bon, la différence, c'est que c'était des écrivains confirmés en 1999, un peu plus confirmés, un peu plus âgés. Et une littérature qui était dans sa grande force aussi, et comme elle était nouvelle, même pour les gens du Québec même, les écrivains, et même ceux qui n'étaient pas venus, c'est-à-dire Régent Ducharme, il y avait Michel Tremblay, et il y avait aussi, je ne sais pas s'il était là, Victor Lévy-Beaulieu. Il y avait ces écrivains majeurs qui restent un peu, et tout de même les écrivains fondamentaux de cette littérature. Mais cette année, c'est intéressant parce que c'est une nouvelle génération. Si nouvelle que je suis arrivé au Québec en 76, et la plupart n'étaient pas nés à mon arrivée. Et beaucoup de femmes, et aussi avec, disons, des préoccupations et plus nouvelles et sur l'écologie et sur l'intelligence artificielle, quelque chose comme si une fenêtre nouvelle s'ouvrait au Québec.
Une nouvelle génération, vous l'avez dit, une nouvelle vague aussi. Et dans un article qui paraît ce week-end à l'occasion du Libé des écrivains, justement, vous parlez, vous, de cette révolution dans la révolution. Il s'est passé quelque chose dans les années 60-70 au Québec, une modernisation de la société et qui est arrivé pour moderniser ce pays-là. Et vous dites, dans cette révolution, les femmes ont joué aussi un rôle. Quel a été ce rôle?
Eh bien, c'était le rôle le plus important, et d'autant plus invisible. Le titre de l'article que j'ai fait, ou l'éditorial de Libé et d'aujourd'hui, c'était une révolution invisible dans la révolution tranquille. Ça dit tout le Québec, hein. C'est l'un des derniers pays à faire une révolution tranquille. Bon, tranquille, pas si tranquille que cela, parce qu'ils ont quand même mis à la porte l'Église. Et l'Église occupait tout le terrain idéologiquement, socialement et de façon d'État, littéralement. Vous savez, le Québec, c'est 1 700 000 km². Pour couvrir cet espace énorme, il faut presque un mode d'ordre national. Alors, le mode d'ordre de l'État, c'était que les femmes devaient, disons, accélérer la cadence pour avoir des enfants. Et c'est beaucoup d'enfants. Et à un moment donné, les femmes ont eu marre de prêter leur ventre à l'effort de guerre et national, et elles ont commencé un peu à contester cette chose. L'idée, c'était que pour défendre la langue française au Québec, en Amérique du Nord, entourée de zones où il y a beaucoup, beaucoup d'anglophonie, donc il fallait beaucoup de gens parlant français. L'Église s'est présentée comme la seule personne qui peut garantir cela. D'ailleurs, il disait très bien, la foi gardienne de la langue. Et il fallait s'occuper à faire en sorte que les gens, que les femmes puissent procréer. Bon, la révolution était politique, elle était une révolution d'hommes, une révolution sous des consignes idéologiques, genre l'identité nationale, la langue française est-ce qu'il faut défendre, remplacer l'Église par l'école. D'ailleurs, ce qu'a dit en juillet 1970 le gouvernement de Lesage, c'est que l'école remplace l'Église. Voilà le mot d'ordre de là. Désormais, l'école remplace l'Église. Et la langue française doit être la langue nationale, la grande langue. Ça, c'est la révolution. Cette révolution, les mots d'ordre ont été renégociés au fil du temps. Et à chaque fois, on a un peu mis de l'eau dans du vin. C'est-à-dire, le Québec peut parler français partout, mais il y a des discussions sur Montréal, qui est une ville un peu bilingue, qu'on voudrait qu'il soit uniquement francophone. Enfin, des discussions comme ça, et on lâchait du lest. Mais jamais sur la question de la révolution profonde, c'est-à-dire les femmes. Les femmes ont dit, eh bien, on va faire table rase pour essayer d'arrêter cette histoire d'avoir des naissances décuplées. On va inventer le divorce, la contraception et la perte de la foi. Et pour faire table rase littéralement. C'est-à-dire, depuis, personne n'a eu 5 enfants, presque, je veux dire, en termes, ils sont même en déficit en ce moment. Et comme on n'est jamais revenu sur cette question, moi, analysant cette affaire avec un œil un peu extérieur, j'ai déterminé qu'il y a eu une révolution invisible à l'intérieur même de la révolution que l'État et les hommes ont menée très bien, mais il y a eu une révolution plus implacable et plus, j'allais dire, déterminée, plus militante, plus sérieuse même.
Et est-ce que vous trouvez aujourd'hui, Daniel Laferrière, qu'il y a une révolution invisible à l'œuvre au Québec que l'on ressent à travers cette nouvelle génération dont vous parliez ?
Non, c'est la continuité de cette révolution et cette délégation. Il y a beaucoup, beaucoup de femmes qui viennent avec et des débats qui sont sur la survie. Et c'est un pays d'arbres, c'est un pays de forêts. Il y a 1 million de cours d'eau au Québec. Le Québec fait 5 fois, je crois, ou 3 fois et demi la France, plus la Belgique et le Luxembourg. C'est énorme. Et donc, on commence à couper les arbres. Donc, il y a des romancières ici. Il y en a une qui a pris ses droits d'auteur pour acheter des
c'est Gabrielle Filtoshiba qui a écrit notamment en cabane et bivouac. Et qui effectivement
ça m'a fait penser à un barrage contre le Pacifique. Comment peut-on faire face avec des multinationales qui possèdent des forêts? Mais elle a tenté et elle trouve que ça la rend moins angoissée et de se mettre dans une action, même si l'action paraît minuscule par rapport. Donc il y a des gens comme ça qui font coïncider et leur style de vie avec leur rêve.
Mais c'est pas une révolution en tant que telle.
Ah, j'ai pas dit que c'est la continuité de leur mère, et je fais un lien total avec cela. C'est la deuxième partie.
Vous avez parlé, Daniel Laferrière, de votre arrivée à Montréal en 1976. On va essayer de nous faire des liens, des ponts avec cette année, et on va commencer comme cela.
Montréal 76, la deuxième ville francophone du monde, s'apprête à organiser les Jeux Olympiques. Montréal, aujourd'hui, c'est la ville à la mode. En une décennie, elle s'est fait un nom sur la carte du monde, mais elle a payé cette célébrité au prix fort. Alors, quand on parle des Jeux Olympiques, les habitants de Montréal sont divisés.
Je pense que c'est une bonne affaire pour le Canada, puis pour la province de Québec, puis surtout pour la ville de Montréal.
Franchement, espérons que ça va être pressé, tout.
Moi, je suis complètement pour. Je trouve pas qu'on va payer plus de taxes. On paie des taxes de toute façon, tant qu'à payer des taxes, moi, je vais en avoir pour mon argent. J'adore les Olympiques, je suis absolument d'accord.
À mon avis, c'est un truc pour les riches, pour ceux qui ont beaucoup de fric qui peuvent y assister.
Ah, ça va être une belle affaire, tout de même.
Un extrait des actualités de France Inter en octobre 1975 avec ce reportage dans les rues de Montréal. Donc, quelques mois avant la tenue des Jeux Olympiques de Montréal en 1976. Daniela Ferrer, me regardez pas comme ça. Je vais pas vous faire commenter les Jeux Olympiques.
Mais... Non, mais c'est l'année de 75, j'y étais pas.
Non.
76, je suis arrivé en juillet 76, en plein Jeux Olympiques. Et quand je suis arrivé à l'aéroport de Montréal, j'ai vu une petite fille qui faisait sa séance de gymnastique. Et avec une telle maestria que je me suis dit qu'elle était sûrement en train de dormir au moment où elle faisait cela. D'ailleurs, elle a eu la note parfaite. Elle a même paniqué parce que quand on a affiché la note, comme on n'avait pas le 10, elle a pensé avoir 1. Et parce que personne n'avait eu la note parfaite, c'est Nadia Comaneci. Et donc, je me suis dit, bon, j'arrive dans une ville toute contente qui acclame un record. Et voilà, et j'ai trouvé, et je sortais d'une dictature en folie, tropicale en folie, et j'atterrissais dans une ville où la nuit, les jeunes femmes buvaient du vin sur les terrasses et conversaient, et alors que les nuits haïtiennes étaient chargées de revolvers à l'époque, c'était Duvalier. Mais en même temps, j'ai toujours gardé un sentiment profond pour les deux situations. La situation extrêmement risquée d'Haïti que je venais de quitter et la situation nouvelle, très, très calme, très tranquille, très, très dynamique d'une certaine manière, puisqu'on pouvait aller au musée, au théâtre, au cinéma sans se sentir pris dans un piège terrifiant. J'ai écrit d'ailleurs dans un livre qui racontait ma dernière nuit en Haïti cette angoisse de choisir entre une balle dans la nuque ou un cancer de la prostate. Et voilà.
Et alors, vous avez choisi ?
J'ai pas eu la balle et pas encore le cancer de la prostate.
On est ravis.
C'est une bonne nouvelle. Vous décrivez souvent, Daniela Ferrière, ce contraste que vous venez d'évoquer entre, d'un côté, effectivement, le feu, de l'autre côté, la glace. Quel est l'homme qui arrive et à quel moment vous savez l'homme que vous allez devenir à Montréal? Quelles sont les opportunités qui vont s'offrir à vous? Vous commencez par grandir, vivre dans une petite chambre, faire des petits boulots, vous travaillez à l'usine, et puis à un moment donné arrive quand même l'écriture. À quel moment vous vous dites, voilà, je vais faire ça et ça va changer ma vie?
Oh non, non, non. Et oui, une fois, mais c'était pas en pensant à moi, c'était en pensant à ma mère. C'est-à-dire que j'étais à l'usine et je me suis dit quand même, je me souviens, non seulement ma mère dépensait tout ce qu'elle avait, toutes ses piécettes pour m'envoyer à l'école, mais elle se mouillait littéralement parce que le principe de la dictature, c'est de vous empêcher de vous instruire. Alors il y a toujours des congés que j'adorais. Et c'était plus du côté de la dictature parce que j'adorais, comme tous les enfants, quand on donnait des congés. Ma mère détestait ça parce qu'elle savait ce qui était derrière. Derrière, c'était de nous garder dans la médiocrité. Et elle m'accompagnait et se mettait derrière le mur pour m'attendre quand j'avais fini la classe pour pouvoir rentrer, disons, sain et sauf. Donc c'était pour elle vraiment une détermination et sauver son fils de la bêtise et pour aussi la maison où on habitait, qui était dans un quartier qui n'était pas très riche. Je me souviens toujours ému de ma mère dès qu'on arrivait dans un quartier un peu pauvre qui entourait la maison de fleurs. C'était sa défense. Vous vous souvenez, le petit prince, c'est la petite fleur qui entourait. Mmh. Tu vois, elle se défendait par la beauté. Et donc, tout ça a fait que j'ai pensé que ma vie pouvait être traversée par cette beauté. Et en hommage à elle, je me suis dit peut-être que je pourrais écrire un livre.
Vous avez dit, on se défendait par la beauté, par la lecture aussi. Vous avez commencé à lire très jeune parce qu'il y avait une bibliothèque municipale foisonnante là où vous viviez à Petit Goave, c'est ça ?
Oui, oui, oui.
Il y avait votre tante qui était bibliothécaire, il y avait votre grand-père.
Oh, mais il n'y avait personne aussi dans la bibliothèque.
Ouais.
Ma tante était seule, on m'envoyait pour lui tenir compagnie. Je la revois encore assise devant la bibliothèque. C'est parce que le maire avait un fils qui était à Paris, qui était médecin, qui avait laissé... Et en héritage, qui avait laissé à la bibliothèque de Petit Goave, qui allait se faire, toute sa collection de livres. Alors, tous ces livres étaient des livres de médecine. Et puis, c'était un amateur, grand lecteur de Blanchot. Et de, j'allais dire Mallarmé, il y avait un autre de Blanchot, comment s'appelle ce grand critique et Bachelard, c'est ça, non ?
Gaston Bachelard ?
Oui,
c'est le philosophe des sciences.
C'est ça, tout à fait. Donc c'était hors de mes moyens. Et littéralement, j'étais tout jeune enfant. Mais je les lisais parce que je connaissais l'alphabet. Et si on lit les mots, lentement, on va finir par les lire. Les comprendre, c'est autre chose. J'ai fait confiance que ma mémoire, un jour, va un peu décoder ce que je lisais. Et je les lisais et m'émerveillais sur chaque mot. Je faisais pas le lien entre les phrases. Parce que vous pouvez bien être Blanchot ou Bachelard, et vous devez quand même écrire avec les articles. Je comprenais.
Oui.
Oui.
Et vous compreniez quoi d'autre ?
J'avais l'impression, vous savez, comme dans les petits films de bande dessinée, on voyait un personnage qui marche et qui tombe dans un trou. Alors je marchais, je comprenais, et puis brusquement, il y a un mot, je tombais dans le trou. Et puis je grimpais, et puis j'allais converser avec ma tante. Mais l'idée d'écrire est une idée qui était chevillée en moi, parce que chez moi, ma mère lisait aussi.
La lecture, votre père aussi qui encourageait la lecture à voix haute.
C'est mon grand-père.
Votre grand-père et votre grand-mère, vous avez raison. merci de me corriger, Denis Leferrière. Et votre grand-mère qui va devenir l'un des personnages de votre littérature. Ça veut dire que dès cette enfance, vous êtes dans ce monde des livres. On est ici au Festival du Livre.
Oui,
il y a des livres partout. Ça nous fait penser à ça. Et puis très rapidement aussi, une fois que vous êtes arrivé à Montréal, c'est l'écriture et puis l'arrivée de votre premier roman.
Comment faire l'amour avec un nègre sans se fatiguer ? Tel est le titre et on a le ton du roman que vient de publier Dany Laferrière chez VLB Éditeur. C'est une histoire loufoque, abracadabrante, et dont le ton d'ailleurs et le vocabulaire surprendront plusieurs. C'est l'histoire de deux Noirs, musulmans de surcroît, qui partagent un minable appartement rue Saint-Denis. L'un est étendu toute la journée sur un canapé à écouter du jazz et considère qu'on doit faire l'amour seulement avec des filles laides parce que ce sont les seules qui sont reconnaissantes. Quant à l'autre, il fait aussi beaucoup l'amour avec des demoiselles, des mises, comme il dit, tout en écrivant un roman. Dany Laferrière, j'avais hâte de vous rencontrer après avoir lu votre livre, et malheureusement, je peux vraiment pas en citer beaucoup, parce que je peux quand même pas lire ce que vous écrivez.
Alors, vous auriez aimé tout lire, là, à la caméra ?
Non, moi, je peux pas le faire.
Ah, trop prude, alors.
C'était le 8 novembre 1985, c'est la journaliste Denise Bombardier qui vous recevait dans son émission En Tête pour, donc, on l'a entendu, l'apparition de votre premier livre, Dany Laferrière.
Oui, bon, c'était la première fois que je passais à la télévision au Québec.
Mais vous aviez du culot déjà, on l'entend dans l'archive.
Alors c'était mon temps, c'est-à-dire j'étais venu avec l'idée, si elle ratait son interview, j'allais la gifler, pour que ça fasse scandale, pour que je sois dans les journaux le lendemain.
Vous voulez que je vous gifle ?
Elle est tout le temps à la télé, moi c'était mes 7 minutes, on m'avait accordé 7 minutes pour changer ma vie. Et en effet, et je suis passé le vendredi. Le lundi, j'étais célèbre. Pas connu, célèbre. C'est-à-dire, tout le monde au Québec savait, il y avait un type qui avait écrit un livre dont on ne pouvait pas dire le titre. Les gens allaient à la librairie, ils disaient, est-ce que je peux avoir ce livre ? Oui, mais quel livre, madame ? Oh, vous savez très bien. Ah oui, ok, je sais. Elle lui donne ce livre, personne ne pouvait dire comment faire l'amour avec un ex sans se fatiguer. Il y a une jeune femme qui m'a dit, j'étais dans le métro, et je lisais ça un peu naïvement, et tout le monde me regardait. Alors tout le monde la regardait en train de vouloir savoir comment le faire sans se fatiguer.
Comment vous expliquez le succès de ce premier livre, avec un titre pareil, avec, on le voit, cette peur de raconter presque ce qu'il y a dedans et de lire, parce que vous y parlez évidemment de sexualité, d'érotisme, de plein de choses. Mais comment ça s'explique que c'est ce livre-là qui vous a fait vous envoler ensuite ?
En fait, c'est très peu de sexualité dans le livre. Comme toujours, il faut faire confiance quand on écrit à l'imagination du lecteur, ou surtout de la lectrice dans mon cas, parce que j'ai beaucoup plus de lectrice que de lecteur. Et c'est une page et demie seulement. Au contraire, je ne parle que du vin, je ne parle que de lecture, que de livres, de jazz beaucoup. Mais vous savez, quand on crée une ambiance, si vous faites un livre où on ne parle que de sexe, ou un livre où on ne parle que des blagues, on raconte que des blagues, ça marche pas. C'est la rareté qui finit par donner une puissance. Et quand on crée une ambiance, Eh bien, si ça marche, eh bien, c'est chaque fois que ça cristallise à l'intérieur. On tombe sur une petite scène et ça cristallise. Bon, je crois que sur la question de la sexualité, c'était pas la vraie raison de ce scandale au Québec. C'était l'idée que d'être vu par des gens qu'on croit regarder. Ils avaient l'habitude, puisque c'est une majorité de gens, de regarder, de dire les Noirs. Et de les regarder avec bienveillance, avec malveillance, avec, comme les gens veulent, comme ils font partout dans le monde, soit en Haïti ou à l'étranger. Et puis, brusquement, ils ont eu l'impression que c'était les autres qui regardaient, à cause de ces deux types discutent avec une telle liberté. Par exemple, il dit, écoutez, bon, l'Occident ne s'intéresse pas à moi, je ne m'intéresse pas à l'Occident, c'est kiff-kiff. Qui dit ça? Il est allé dans une maison anglophone, très riche. Il regarde, il y a des photos, il y a des images de chasseurs de safari et autres. Et il regarde et il a l'impression que ces gens-là avaient sûrement des colonies, avaient l'habitude de regarder de haut les Noirs. Et il dit, bon, voilà, c'est l'histoire. C'est l'histoire, c'est l'esclavage. Et bien, l'histoire, dans ce moment où je suis dans la maison de ce colonel, eh bien, me servira d'aphrodisiaque. C'est-à-dire que c'est avec ce fantasme-là que je vais avoir le désir de la fille de la maison. Ben, il ne se passe pas de scène sexuelle. Mais il y a un tel dérèglement des sens et de la logique habituelle où dès qu'il y a un noir ou il y a un blanc, il y a toujours une sorte de lamentation du noir. Et brusquement, vous voyez un type pauvre qui n'a pour lui que sa liberté de penser. C'est-à-dire, quand j'ai publié le livre, les noirs, comme les blancs, étaient contre moi. Le film est sorti aux États-Unis, le New York Times l'a censuré. Alors j'ai appelé le Washington Post, j'ai dit, il y a une feuille de chou à New York qui vient de censurer mon livre. Et ils ont dit, ah bon, ils l'ont censuré aussi. Le Chicago Tribune m'a appelé pour me dire, vous savez, on a entendu parler, eh bien, ils ont sorti un article, ils l'ont censuré aussi dans la publicité, ils n'ont pas dit le titre. Le Los Angeles Times, c'était « How to make love to a Negro without getting tired ». Le Los Angeles, c'est devenu « How to ». Ils n'ont même pas... Ça veut dire qu'il y a eu une manifestation publique dans les rues de Washington, de la NAACP, qui est une organisation puissante, importante, qui a contesté le racisme partout. C'est-à-dire, je l'ai dit, il n'y a que le San Francisco et Chronicle. Bon, San Francisco, tout le monde sait, c'est pas sérieux. Ils sont dans la liberté pour tout le monde. Donc quand je dis c'est pas sérieux, c'est pas les gens à être contre des gens. Eh bien, j'avais tout le monde sur mon dos. J'avais réussi.
Vous êtes devenu célèbre. C'était l'équivalent de la gifle, en fait.
Ben oui, c'était l'équivalent de la gifle. Non, c'était une baffe.
Ah, vous faites une différence entre une gifle et une baffe. C'est comme célèbre et connu tout à l'heure aussi, vous avez fait une différence.
Voilà, c'était okay. Une baffe.
Mais ce titre, justement, « Comment faire l'amour avec un ex sans se fatiguer », aujourd'hui aussi, il pourrait choquer. On discute beaucoup du titre du mot nègre.
Et puis je m'en fous.
Vous n'allez jamais le changer, on est d'accord.
Ben, de toute façon, c'est rempli dans les maisons des gens. Changer quoi?
Les gens sont remplis de votre livre.
Non, parce que je vais dire dans le sens qu'ils l'ont acheté.
Ils l'ont déjà acheté, oui.
Ça fait quand même 35 ans que c'est dans les bibliothèques. C'est pas où, l'année dernière encore, il y a le nombre de
Mais on vous a demandé de changer le titre, par exemple, je pense aux discussions qu'on a autour de ce mot.
Oui, mais j'écoute pas les conversations sur la littérature. La littérature, c'est des livres, des lecteurs, des lectrices. J'écoute pas les conversations.
Dany Laferrière, quand on s'intéresse à votre parcours, souvent on dit le mot exil parce que vous êtes parti d'Haïti pour ensuite aller, on l'a raconté, à Montréal. Vous êtes venu en France où vous êtes aussi installé et où vous vivez aussi en partie aujourd'hui. Vous avez vécu aux États-Unis. Vous êtes voilà cet écrivain haïtien naturalisé canadien qui a vécu à Miami. Je vous ai présenté tout à l'heure comme membre de l'Académie française.
Et qui a écrit un livre dont le titre est « Je suis un écrivain japonais ».
C'est ça. Eh ben j'allais le dire.
Voilà.
Et vous vous présentez comme un homme de l'Amérique. C'est quoi cette Amérique dont dans laquelle vous vous reconnaissez?
Celle de Bolivar qui a dit un continent, un pays. Et c'est le vieux rêve de faire un seul pays. L'Amérique n'appartient pas aux États-Unis. Ils ont volé frauduleusement le mot « America ». Il s'appelle « les États-Unis d'Amérique ». Le Mexique aurait pu faire la même chose, parce que ça s'appelle « les États-Unis du Mexique ». Donc, je viens reprendre le mot. C'est-à-dire, le Petit Gouave, mon village natal, est aussi en Amérique. Port-au-Prince est en Amérique. Fort-de-France est en Amérique. Pointe-à-Pitre est en Amérique. D'ailleurs, il y a un passe-passe avec la France où Pointe-à-Pitre se trouve en Europe. C'est une plaisanterie sans fin. Et cette histoire de territoire, d'espace où on n'est même pas à l'endroit où l'on doit être, puisque par un passe-passe idéologique ou un passe-passe comme ça, on peut vous mettre à un autre endroit. Haïti est en Amérique, Montréal est en Amérique. Est-ce pourquoi je suis un écrivain américain? Donc, j'ai écrit un seul livre dans ma vie qui comprend 17 livres et 37 livres qui s'appelle Autobiographie américaine, parce que ça m'emmerdait de voir que Norman Mailer croit qu'il a écrit le grand roman américain parce qu'il parle de New York. Ou bien encore, par exemple, Philip Roth, que j'aime beaucoup d'ailleurs, a écrit un livre qui s'appelle « Le grand roman américain », le livre le plus ennuyeux de Philip Roth, mais qui est un écrivain magnifique, et Portnoy complexe et autres. Je me suis dit, ils ont fait les choses de telle manière que on va croire que Manhattan, qui est un quartier de New York, un des 5 quartiers de New York, est plus connu que le Sénégal. Pourquoi ? Parce que ils ont beaucoup écrit sur Manhattan, ils l'ont placé comme si, enfin, comme pour le reste du monde, Paris, c'est Saint-Germain-des-Prés. C'est-à-dire que quand il y a concentration d'artistes, ils peuvent arriver à sublimer un espace restreint et faire le centre du monde. Alors je me suis dit, dans ce cas, je suis un écrivain américain. J'ai écrit un plus grand roman américain que ces autres qui ont déterminé qu'un espace était le cœur de l'Amérique. Puisque mes livres se passent dans une petite ville d'Haïti, Petit Gouave, dans une capitale, et Port-au-Prince, dans une grande ville d'Amérique du Nord francophone, Montréal, à New York, à Miami, et parlant des langues diverses, le créole, langue d'Amérique, le français, langue d'Amérique, l'anglais, langue d'Amérique, et parlant de l'Amérique latine aussi, puisque ça se passe aussi au Brésil, et puis je suis un grand lecteur de Borges, et en Argentine, l'espagnol, qui sont très étranges les Argentins, ce sont des Italiens qui parlent espagnol. Donc, c'est un melting pot, c'est ça la grande tentative du roman américain, du grand roman américain. C'est-à-dire, c'est ça le dévoilement des choses. Dire que le roi est nu. Vous ne pouvez pas placer un roman dans un espace circonscrit, sans oublier l'esclavage, qui est le grand scandale de l'Amérique. Donc, que les traces de l'esclavage se trouvent dans mes livres me rend plus légitime de me réclamer comme écrivain américain qu'un écrivain, par exemple, comme je dirais Truman Capote, où les livres se passent dans un petit espace à Mobile, là où il a passé son enfance, et à Manhattan, avec dans des salons, même pas dans des espaces, dans des salons où l'on converse, sauf son grand roman de sang-froid, et qui parle, par exemple, du crime dans un espace paysan. Mais il faut regarder le nombre de langues, et puis aussi, faut pas oublier la grande conquête des pauvres sur l'espace. Qui n'a pas connu la misère ne peut prétendre être de l'endroit où se trouve. Quand on est ouvrier, quand on travaille, on a une connaissance double. On doit d'abord se défendre, puisque moi j'ai travaillé comme ouvrier illégal, donc j'étais payé sans avoir aucune possibilité. Et on travaille en dessous, on est écrasé sur le premier front du racisme. On se marie avec les gens qui sont aussi dans notre niveau. Blanc et noir, c'est là que ça se passe. L'un déteste l'autre, mais le mari l'autre aussi. Pendant que les riches surplombent en haut, ils peuvent se permettre de ne pas être racistes. Parce que c'est eux qui contrôlent, qui manipulent toute cette histoire. Quand vous avez vécu des choses comme ça et que vous les intégrez dans votre livre, voilà le grand roman américain.
C'est ça qui est dans votre œuvre, Daniela Ferrière, pas facile à cerner, en fait. Parce que je me dis, vous voulez aujourd'hui faire cette autobiographie américaine, qui est donc une forme de couture, où vous reprenez tous les livres que vous avez déjà publiés, que vous réassemblés, vous les modifiez, comment vous faites? Non, je les réécris.
Le problème, c'est que j'avais écrit depuis très longtemps une petite fiche où j'avais les 10 romans que je voulais écrire. Parce que j'étais tellement vexé d'avoir à écrire 2 livres. Pour moi, j'étais un dandy à l'époque où je faisais ce premier livre. Un dandy n'écrit pas 2 livres, on fait pas 2 fois la même chose. Ça, c'est pour les besogneux. Donc, on écrit un livre, et puis après, on devient danseur, et puis ensuite, on devient chanteur d'opéra. Enfin, on traverse le monde dans une gaieté folle. Alors, comme j'étais pris à écrire 2 livres, je me suis dit, je vais retrouver l'idée d'un seul livre dans ma vie, et qui traverse la vie. Et j'ai écrit une autobiographie américaine, et à un moment donné, j'avais un petit problème. Le petit problème, c'est que la langue que je parlais, la langue spontanée, la langue de ma connaissance, c'est le créole. Maintenant, comment faire? Comment faire pour écrire vraiment, pour dire des choses qui viennent de vos tripes dans une langue autre? Ben, j'ai réfléchi à cela. Il y avait tout un débat en Haïti, un débat un peu partout, sur la place de la langue vernaculaire dans la qualité d'expression. Eh bien, il est faux, ce débat. C'est précisément les gens qui sont pris en porte-à-faux qui finissent par créer des choses nouvelles. Être français et écrire en français pour les Français, c'est la chose la plus banale qui soit. Mmh. Les écrivains devraient écrire pour d'autres peuples. On devrait lire que les Anglais en France, et les Anglais devraient lire que les Sénégalais devraient lire que les Allemands. C'est-à-dire que si vous connaissez ce que vous êtes, comment ça se fait que vous lisez ce que vous êtes? C'est du narcissisme total.
Donc il faudrait tout le temps écrire dans une autre langue que la nôtre?
Et il faudrait tout le temps se placer en situation d'inconfort. La culture, la différence entre l'art et la culture, l'art c'est quand on met sa culture en danger. Il faudrait se mettre en danger. Quand vous écrivez pour votre voisin, quand votre maman est votre première lectrice, vous ne mettez rien en danger. Et il faut c'est pour ça que beaucoup de jeunes gens me disent, mais vous savez, c'est pas ma langue. Bon Dieu, vous devriez vous mettre à genoux et chanter les louanges. C'est pas votre langue et vous allez écrire là-dedans. Mais c'est magnifique. Vous écrivez pour des inconnus. Ils peuvent pas vous dire, comme ma mère me dit, oui, mais j'ai vu, quand j'ai écrit mon premier livre, je l'ai envoyé à ma mère après quelques mois, parce que comment faire l'amour,
tu vois. Vous n'avez pas osé tout de suite.
Ma mère est très chrétienne. Et elle m'écrit une longue lettre, elle me dit, mais tu m'as menti. Il y a personne. Le narrateur n'a jamais pris de douche durant tout l'été. J'avais oublié qu'on devrait prendre des douches parce que j'étais pressé à parler de littérature. Il ne mange pas de carottes comme tu me l'avais promis. Il boit pas de lait le soir. Il ne prie pas. Il va pas chez le coiffeur chaque 15 jours. Elle m'a fait la liste d'une mère. J'ai dit, mais je peux pas mettre ça et puis être une sorte de playboy qui séduit les femmes. Je peux pas mettre des histoires de carottes et de lait dans cette histoire.
Oh, quoi que.
Eh bien oui, vous avez raison. Mon livre aurait été meilleur si j'avais reçu la lettre de ma mère avant. Bon, oui, carottes et du lait, ça fait un peu Bugs Bunny.
Daniel Laferrière, vous parliez de langue et de créole. On a voulu vous faire écouter une personne en particulier. J'imagine que vous avez deviné qui c'est.
Pas question de parler créole à ses parents parce qu'on aurait reçu un soufflet sur la bouche. On n'y pensait même pas d'ailleurs. Pas question de s'exprimer en créole ouvertement dans la maison. Mais on parlait tout le temps. On parlait quand on était avec d'autres enfants. On parlait quand on était loin de l'oreille des maîtres et des parents. Donc on a quand même baigné dans le créole. Nous savions qu'il y avait des choses qu'il ne fallait pas faire devant les parents. Mais en même temps, ça ne nous empêchait pas de les faire par ailleurs. Donc il n'y avait pas vraiment de traumatisme. On était un peu double. Et cette dualité, je crois que nous la portons, nous, jusqu'à maintenant, un côté profondément antillais, créole, et un côté peut-être plus, disons, proche de la culture internationale. Mais ce n'était pas douloureux.
Vous l'avez reconnu, Daniela Ferrière?
Oui, c'est Marie Scondé, bien sûr. Bien sûr, je reconnais cette voix et qui deviendra encore plus forte, plus précise, plus lente aussi. Et je disais d'elle dans un hommage et que quand Maryse Condé est content avec vous, vous l'entendez très bien parce que elle avait à la fin une diction très lente. Mais quand elle est fâchée aussi, vous entendez ce qu'elle vous dit parce qu'elle prend son temps. Donc il y a quelque chose. et d'extrêmement émouvant à entendre Maryse Condé là. J'ai eu une conversation de 3 jours avec elle à New York. J'étais à New York et quand elle a appris que j'étais un peu mal logé, elle m'a invité dans son appartement.
C'était en quelle année, ça?
Celui, bon, les années, vous savez, quand on est immortel. Et
meilleure réponse.
Il y a les années à venir, me semble-t-on, dans l'oubli que celle passée. Et là, elle m'avait invité et on a discuté précisément de cela. On a été plus loin même que, parce qu'il y a un accent de, quand même, de nostalgie. Il y a, non, c'était l'idée de, quand vous avez des difficultés, c'est là que ça commence. Je crois que c'est Homer qui a dit ça. Si les dieux nous envoient des malheurs, c'est pour qu'on en fasse des chants. Et c'est cela, ce métier. Dans la vie quotidienne, réelle, directe, ordinaire des gens, c'est normal qu'on ne soit pas en situation intranquille avec son essence. C'est normal qu'on se sente mal de ne pas pouvoir s'exprimer dans sa langue librement ou bien des choses comme ça. Mais dans la vie d'un écrivain, les problèmes, c'est exactement ce qu'il vous faut. Vous n'allez pas vous en sortir avec des... C'est-à-dire, il ne faut pas pleurer. Si vous pleurez dans ce que vous écrivez, le lecteur n'aura pas la possibilité de le faire. Il ne faut pas le faire à sa place. Il faut précisément sublimer, transfigurer. Donc, on est content des malheurs. Moi, je vais travailler dans les usines. Quelqu'un m'a dit, ah, pauvre vous, pas du tout. Moi, un petit bourgeois haïtien que ma maman qui a tout fait pour moi. À 21 ans, elle a tenté de me donner le bain. J'ai dit, ah non, mais ça va. Je peux quand même faire ça. Et donc, je me retrouve ouvrier, seul, dans une ville inconnue. Mais c'était la chance de ma vie. C'était là. Au lieu de me plaindre, je dis, j'ai observé attentivement, je me suis baigné littéralement dans la douleur, dans la difficulté. J'ai essayé de comprendre comment l'on vit quand ça ne va pas, qu'on n'est pas protégé constamment par sa mère, par ses tantes, par ces femmes fabuleuses qui m'ont entouré, qui ont fait cercle autour de moi pour m'empêcher de me faire brûler par la dictature, par l'ogre, le monstre. Donc je croyais vivre d'ailleurs dans un moment tranquille, et bien heureux, en pleine dictature. Ça, c'est ce que la famille peut faire. C'est terrifiant pour l'écrivain. C'est conduire à l'échec. L'écrivain doit dévoiler le monde, déchirer le voile qui nous sépare de la réalité. Et les mamans doivent nous construire un monde heureux, un monde harmonieux. Donc, il n'y a pas d'écrivain, il y a une mère.
Et on découvre une partie de ce voyage qui est votre vie, Daniela Ferrière, dans cette autobiographie américaine qui est parue aux éditions Bouquin au mois de mars dernier et dans laquelle il y a également ce livre fait chez Oki qui vient de paraître aux éditions Zulma, qui vient de reparaître puisque c'est effectivement aussi une reparition. Merci beaucoup d'être venu dans les Midi de Culture, cher Daniela Ferrière. Je rappelle que vous faites partie de cette grande délégation québécoise qui est à Paris durant tout ce week-end pour le Festival du Livre au Grand Palais Éphémère. Il y aura plusieurs rencontres notamment autour d'un hommage que vous rendrez, ce sera dimanche, avec Denise Desautels à Régent du Charme. Ce sera ici au Grand Palais Éphémère à Paris.
Pour finir, Daniela Ferrière, nous avons choisi 2 chansons de 2 artistes que vous citez dans votre roman Fête chez Oki, John Lennon ou Leonard Cohen. Lequel des 2 souhaitez-vous écouter ?
Ah, si vous avez lu le livre, vous saurez que c'est Leonard Cohen, et je sais que vous l'avez lu, parce que dans la petite conversation... Et on dit que John Lennon, c'est très bien. Mais Leonard Cohen, c'est moins connu, sûrement mieux.
Un Canadien errant banni de ses foyers parcourait en pleurant des pays étrangers, parcourait en pleurant des pays étrangers.
Léonard Cohen pour terminer cette émission des Midi Culture spéciale Québec, puisque nous étions aujourd'hui en direct du Festival du Livre de Paris avec vous, Dany Laferrière. Merci beaucoup d'avoir été notre invité ce midi dans cette émission préparée par Aïssa Touendoy, Anaïs Isbert, Cyril Marchand, Zora Vignier, Laura Dutèche-Pérez, Apolline Limosino et Manon Delasselle. L'émission est réalisée par Nicolas Berger, et à la prise de son ce midi, on peut aussi les applaudir à Christophe Papon, Olivia Branger et toutes les équipes de Radio France qui permettent la réalisation de ces émissions en direct. Merci Géraldine, bon week-end, bonnes vacances.
Bon week-end, merci Nicolas et bonne semaine.
Merci.